Eh bien, dans le cadre de ces rencontres, la radio FM+ vous propose de rencontrer aujourd'hui l'association ICO en la présence de monsieur Pierre Chevalet. Monsieur Pierre Chevalet, bonjour. Peut-être vous pourriez-vous commencer par nous dire un peu ce qu'est ICO en 2 minutes.
Alors, l'association dont j'ai été secrétaire général pendant près de 30 ans s'appelle ICEO, Institut de coopération avec l'Europe orientale. C'est une association qui a été créée à la 2 mois après la chute du mur de Berlin pour favoriser la connaissance des pays de l'Est, parce que en 89, en Europe occidentale, les gens n'avaient pas eu la chance ou la volonté d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté du mur. Et donc, AICO, ça a été une association pour regrouper tous ceux qui avaient eu cette expérience, et ce qui permet d'avoir un regard sur la crise actuelle en Ukraine, affûté, puisque on connaît pour certains la Russie et la Pologne depuis plus de 50 ans. Voilà.
Alors, nous allons effectivement continuer sur ce sujet, en particulier la question de la défense européenne. Est-ce qu'elle est possible? Pourquoi? Et pourquoi ça n'a pas été encore fait?
Alors, actuellement, depuis la crise ukrainienne, et surtout depuis les prises de position du président Trump, la création d'une communauté européenne de défense revient à l'actualité. Alors, l'Union est censée faire la force et les regroupements supposés permettre de faire des économies d'échelle. Alors, tous les pays de l'Union européenne auraient dû créer une communauté de défense depuis longtemps. Et la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison cette communauté, dont on parle depuis près de 73 ans, n'a-t-elle pas encore vu le jour? Eh bien, la raison est malheureusement très simple, à cause de l'extrême complexité politique, économique et militaire de sa mise en œuvre. C'est pas facile de décider de partir en voyage ensemble, c'est encore moins facile de décider de faire guerre ensemble. Alors, en 44, les Français qui espéraient depuis 4 ans leur libération ont accueilli les Américains comme en 17. Ils étaient heureux d'acclamer des partenaires qu'ils croyaient seulement venus pour leur apporter assistance. Les États-Unis sont venus, certes, libérer les Français des nazis, mais ils avaient aussi un projet derrière la tête. Après avoir chassé les Allemands, ils voulaient mettre les pays d'Europe, France comprise, sous leur tutelle politique, économique et militaire. Les Européens ont voulu créer un grand marché. Les Américains voulaient faire de l'Europe leur grand marché. Alors, heureusement, le général de Gaulle avait compris la manœuvre, notamment lorsqu'il a appris l'impression de billets d'une nouvelle monnaie, ce qu'on appelle l'Amgot, qui devait remplacer le franc. Grâce au général, la France a pu longtemps retarder sa vassalisation, mais les Américains n'ont jamais totalement abandonné leur prétention à devenir et rester les suzerains du monde libre. Avec Trump, l'hégémonisme américain est redevenu au premier rang. Alors, les membres du Congrès américain ont voté en septembre 1947 le principe du plan Marshall. Ils l'ont fait pour aider l'Europe à se reconstruire, mais avant tout pour pousser l'Europe à se fournir aux États-Unis. Alors, en février 48, après le coup de Prague, et après le blocus de Berlin qui a duré de juin 48 à mai 49, face à la menace soviétique, la mise en place d'une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre l'un de ses membres en Europe a été saluée avec enthousiasme dans les 10 pays européens membres de l'OTAN. Sauf bien sûr par les communistes qui, en Italie et en France, représentaient alors près d'un quart des électeurs. Depuis la création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en 1949, aucun des pays membres ne l'a quitté. Aucun des membres n'y a même songé, sérieusement. Trop heureux de pouvoir s'abriter pour certains, pour la plupart, sauf la France bien sûr, sous le parapluie atomique américain. Alors, jusqu'au début de la guerre en Ukraine...
Je me permets de vous interrompre deux minutes, mais quand vous dites ça, vous pensez à la question qui se posait, à savoir quand l'Ukraine, puisque vous allez parler de l'Ukraine maintenant, quand le Gorbatchev a coupé, a ouvert l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, il était entendu que les pays pouvaient rentrer dans l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN.
Oui. Alors ça, c'est le grand débat actuel. Ça mérite une émission complète sur le sujet.
Eh ben, on en fera une.
Effectivement, tous ceux qui... Enfin, l'ambassadeur... Le nombre de témoignages qu'on a sur les engagements oraux qui ont été pris par les Occidentaux face à la Russie, elles sont tellement énormes que pour les ignorer, il faut être malhonnête. Mais tout a été fait pour que les Russes soient humiliés et on en connaît le résultat. Alors, je parle pas de Poutine, je parle avant Poutine. Alors, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, même en 2014 et février 2022, aucun des dirigeants des pays membres de l'OTAN sur le vieux continent n'imaginait qu'il faudrait prendre les Américains au sérieux quand ils menaçaient de se désengager militairement de l'Europe. Que les Européens étaient obligés de se prendre en charge eux-mêmes. Alors, le traité de Paris, qui proposait la création de la CED, a été signé le 27 mai 52. Alors, 73 ans après, les Européens se retrouvent ramenés à la case départ. Et ils sont obligés, dans l'urgence, de concevoir et de bâtir, pour leur défense, l'outil qu'ils n'ont ni su ni voulu forger pendant trois quarts de siècle. Après la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, il était impossible et impensable de construire une défense en Europe autonome. Une défense en Europe qui soit autonome, et encore moins indépendante, c'est-à-dire sans aucun lien avec l'armée des États-Unis. Après la fin de l'Empire soviétique, les Européens ont cru pouvoir toucher intégralement, comme dit Fabius, les dividendes de la paix. Les budgets militaires ont tous été énormément réduits. La plupart des pays ont précipitamment sous-dimensionné leurs forces armées et les ont sous-équipées, de façon totalement inconséquente. La guerre en Ukraine a fait ressortir la forte désindustrialisation de la plupart des pays occidentaux, incapables de fabriquer le nombre d'obus qu'ils s'étaient pourtant engagés à fournir à l'armée ukrainienne. Enfin, conscients de cette situation à haut risque pour leur sécurité, tous les pays européens de l'OTAN ont annoncé vouloir désormais augmenter la part de leur PIB dans leur budget de la défense. Comme si la solution du déclassement des armées européennes n'était qu'un problème financier. Ça, c'est le problème central. Les gens s'imaginent qu'il suffit de payer pour avoir. Mais la défense, comme l'amour, ça ne s'achète pas.
Si le monde... Oui, d'ailleurs, quand vous dites « la défense comme l'amour ne s'achète pas », et d'ailleurs, quand on reprend la formule de De Gaulle, en plus, il disait « l'Europe se fera de l'Atlantique à l'Oural. »
Oui, mais c'était le vieux con, le général de Gaulle, qui n'avait rien compris.
Oui, tout à fait.
Si on se met à écouter de Gaulle, alors où va-t-on ? Alors, si le montant des sommes consacrées à la défense était le plus important de tous les États-Unis, de tous, si le montant des sommes consacrées à la défense était essentiel, était la seule chose importante, les États-Unis n'auraient jamais dû perdre toutes les guerres qu'ils ont faites et perdues depuis 80 ans. Hein? Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, de nombreux experts ont expliqué que la Russie ne pouvait pas gagner cette guerre en raison de la faiblesse de son PIB comparé à la somme des PIB cumulés de tous les pays de l'OTAN. Alors, on peut faire remarquer que si des spécialistes militaires âgés ont pu sortir de telles inepties, c'est la preuve qu'ils ont dû perdre la mémoire. Parce que quel était le PIB du Nord-Vietnam comparé à celui des USA ?
Oui, alors, effectivement, vous avez, c'est une chose tout à fait vraie, le PIB du Nord-Vietnam comparé à celui des USA. Mais on oublie que quand même, derrière le Vietnam Nord, il y avait quand même la Chine.
Et la Russie.
Et la Russie.
Oui, mais alors en matière de PIB, justement, c'est une excellente question, monsieur l'animateur. Pendant la guerre du Vietnam, le PIB cumulé du Vietnam, de la Chine et de la Russie était inférieur au PIB des États-Unis seuls. Et ne parlons pas du PIB cumulé de tous les pays occidentaux. Donc, cette remarque méritait d'être faite, mais j'y ai répondu. Alors, ce qu'il y a de grave au niveau défense militaire, c'est que les gens oublient que la force immatérielle d'un peuple est aussi importante que sa force matérielle. Les Ukrainiens nous en apportent la preuve. Contrairement à ce que les Russes pensaient, les Ukrainiens ont eu la volonté de se battre, et donc on connaît le résultat. Alors, ce qui fait la force principale de l'armée d'un pays, c'est la résilience, c'est la volonté de se battre de ses soldats, ainsi que la force morale et la cohésion du reste de la nation. Hein, en 14-18, les spécialistes disaient « Est-ce que l'arrière tiendra ?» Et dans toutes les guerres, l'arrière est aussi important que l'avant. La guerre du Vietnam a été perdue par les Américains parce que l'arrière n'a pas tenu, puisque plus personne aux États-Unis ne voulait la faire. Alors, les supporters d'un club de sportifs le savent parfaitement. On parle du 12e joueur pour les supporters qui soutiennent leur équipe. Eh bien, militairement, toutes les armées du monde ont besoin d'un 12e joueur. Et le 12e joueur, on ne le forme pas avec des sous, on le forme avec une tradition. Enfin, tous les clubs de football qui créent un club de football aussi prestigieux que Madrid ou que Liverpool, ça prend des décennies.
Alors merci pour cet ensemble de questions, de réponses à ce qui se passe aujourd'hui, mais sur le Radio FM+, on va vous proposer d'écouter une petite musique qui est
I vow to thee my country.
Tout ça en anglais, bien sûr. Toujours sur Radio FM+, en relation avec M. Pierre Chevalet qui représente ICEO, l'Institut pour la coopération avec l'Europe orientale. Nous allons continuer cette émission, mais tout d'abord, peut-être pouvez-vous, M. Pierre Chevalet, nous dire un peu ce qu'est cette musique que vous avez choisie.
Alors donc, nous sommes toujours dans cette émission consacrée à la communauté européenne de défense, et donc je faisais que, en écoutant ce morceau, je faisais la réflexion que Adolf Hitler aurait dû écouter les Anglais chantaient cet hymne avant d'attaquer l'Angleterre, parce qu'il aurait compris que ça n'allait pas être facile de faire la guerre avec eux. Et donc, pour continuer, les dirigeants de l'Union européenne, créés 3 ans après la chute du mur de Berlin, ont réussi à bâtir le plus grand marché du monde. Et ils en sont fiers. Bah, maintenant, il leur faut désormais d'urgence rassembler les meilleurs moyens de défendre ce marché, qui est fort menacé.
Ah bah, quand on est le plus grand marché du monde, c'est qu'on a le plus gros potentiel financier, alors.
Oui, mais on a le plus gros potentiel financier, mais que la crise en Ukraine est un révélateur des faiblesses de l'Union européenne. C'est-à-dire que il faut être conscient que en Allemagne, à cause de la guerre ukrainienne, à cause du prix de l'énergie, l'Allemagne souffre énormément et l'Europe dans son entier. Depuis le traité de Rome, on explique aux Européens que seule l'Union fait la force et qu'aucun pays de l'Union Européenne ne pourrait faire seul ce qu'il fait dans l'Union, grâce à l'Union. Mais il y a des questions que les dirigeants européens ne veulent pas entendre, hein. Parce que pourquoi les Suisses et les Norvégiens n'ont-ils toujours pas rejoint le club des 27? Et pourquoi les Britanniques ont-ils voté pour le Brexit? Et bon, maintenant, certains disent qu'ils le regrettent, mais au moment où ils ont voté, ils avaient l'air fort heureux de le faire. Donc, quand on est bien quelque part, on ne va pas vivre ailleurs. La grandeur fait la force. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ceci est souvent vrai pour les pays, les alliances de pays, comme pour les individus. Mais la taille et le poids des individus fait effectivement la force, mais voir l'exemple du judo. Hein, on a été obligé de faire des catégories, parce que au début, les judokas disaient non, tout le monde. Mais on s'est rendu compte qu'un judoka d'1m50 par rapport à Teddy Riner, le match, il durait 3 secondes.
Ah bah oui.
Donc, la taille des individus fait la force. Mais la plupart des individus. Mais c'est sous réserve qu'ils ne soient pas obèses, ou que leur taille de géant ne les empêche de marcher. Alors, je donne l'exemple du recrutement des membres du GIGN.
Le GIGN.
Le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, et ils ont une formule qui est tout à fait éclairante. Ils disent, ce qu'il faut au GIGN, c'est pas des géants, c'est des chats maigres. Parce que si vous avez un chat maigre et qui se bat pour survivre, il est beaucoup plus puissant qu'un. Alors surtout qu'au GIGN, ils ont des tests où ils doivent passer par des tuyaux. Donc si vous avez un gros dans un tuyau,
il a du mal.
Par rapport à un chat maigre, c'est-à-dire qu'un mec d'un mètre 70 mais qui a pas un pet de graisse, il n'y a pas de différence. Alors pour construire la défense européenne, il faut rassembler les meilleurs moyens de défendre l'Union européenne. Mais avant de réunir les forces, avant de réunir leurs forces, les États européens seraient bien avisés de penser à ne pas accroître leurs faiblesses individuelles ou collectives. Hein ? C'est-à-dire que la façon dont le grand marché européen s'est constitué était complètement, impensé, inconséquent. On a voulu faire un pays riche sans usine, hein, et acheter au niveau agricole. Alors, bon, la PAC, au début, ça a été extraordinaire, mais on se rend compte que la PAC actuellement, elle est largement combattue dans plein de domaines, et donc, alors que l'Europe avait réussi à avoir une totale souveraineté alimentaire, dans presque tous les domaines, elle est de plus en plus fragile. Et ça, d'un point de vue militaire, si on perd notre souveraineté agricole et notre souveraineté industrielle, c'est une hérésie. Parce que on sait depuis le Moyen-Âge que quand on est dans un château, il vaut mieux avoir un puits profond qui permet d'avoir de l'eau, d'avoir des greniers bien remplis, d'avoir une forge qui tourne pour pouvoir faire des armes. Et donc, c'est depuis le Moyen-Âge, visiblement, nos intellectuels ont perdu le sens des réalités. Alors, la souveraineté européenne dont on parle, est un leurre, parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait un peuple européen qui n'existe pas. Parlons pas de souveraineté européenne, mais parlons de cohérence européenne.
C'est-à-dire pas l'Europe des nations, mais...
Mais le problème, c'est que l'Europe fédérale, que certains appelaient de leur vue, elle a... De toute façon, l'Europe fédérale avec qu'on construit autour de l'anglais, c'est une hérésie aussi, parce que de toute façon, l'Europe s'était constituée sur la base de trilinguisme, hein, le français, l'allemand et l'italien. Quand les Anglais sont rentrés, leur anglais a tout envahi. C'était évidemment intelligent d'utiliser cette langue de statut international, mais on aurait dû rester sur la base de la logique de la loi Toubon, c'est-à-dire que tous les textes importants doivent être écrits en français ou avec quand on utilise une autre langue que le français, adossé à deux langues de traduction. C'est ce qu'ICO a proposé au niveau du trilinguisme. Visiblement, les gens n'ont pas compris l'intérêt de la manœuvre. Le trilinguisme, ça fait partie aussi de la défense nationale, parce que ça participe de la cohésion et de la cohérence européenne. Le plus important, c'est la cohésion nationale de chacun des États. Et parce que à quoi sert d'être 27 à faire des armées si dans chacun des pays dont les soldats sont originaires, il n'y a pas de cohésion nationale et il y a le désordre national. Et je parle de ça actuellement parce qu'on peut s'effrayer. Prétendre garder la frontière de l'Ukraine face à la Russie et pas être capable de garder le quartier nord de Marseille, ça pose problème. Les problèmes qu'on a avec l'Algérie actuellement, quand on sait qu'on a une communauté potentielle d'Algériens très puissante en France, si ces Algériens détestent la France, c'est très mauvais pour la défense nationale. Hein, quand on voit, comme à Toulouse, un tag où il y a écrit nique la France, raciste et colonial, c'est sûr que qu'il y a plein de jeunes qui reprennent ce schéma et qu'il y a même des partisans d'un certain parti politique qui adhèrent à cette idée. C'est pas très bon pour la défense nationale. Donc la première des choses avant de défendre la frontière de l'Ukraine, c'est de défendre ses frontières intérieures et ses frontières psychologiques. Nous l'écrivons dans un article qui est en ligne bientôt sur ICO, avant de penser à renforcer ses dépenses militaires, il faut ne pas oublier de préserver ses défenses immunitaires. Alors, ceux qui ont peur des délinquants russes viennent demain défiler. Ceux qui ont peur que les délinquants russes viennent demain défiler sur les Champs-Élysées devraient d'abord se préoccuper des délinquants qui sévissent aujourd'hui dans presque toutes nos villes et campagnes. Je veux dire que économiquement, culturellement, juridiquement, c'est une hérésie. Et donc parler de défense nationale quand on n'est pas capable de défendre l'état de droit, en fait, parce que le drame de ce qu'on vit actuellement, c'est que notre état de droit est un leurre, puisque cet état de droit qui défend et c'est qui défend les droits de la défense ne défend pas les droits des victimes.
Quand vous avez parlé des délinquants, délinquants des mineurs isolés, étrangers, etc. Les délinquants. Quand on entend délinquants, c'est en fait vous entendez ceux qui ne se sentent pas français. Ou qui ne se sentent pas européens.
Là je parle. Ah oui, voilà. Ce problème qui est énorme, c'est déjà des gens qui sont depuis trois générations en France et qui détestent la France et qui le disent, ça pose problème. Mais en matière de défense, tout fait sens. Je crois que c'est ça que les gens oublient. Il n'y a pas de problème mineur. Hein, C'est pour ça que on peut sourire en disant la délinquance des mineurs isolés étrangers est le problème majeur que l'Europe doit régler avant tout. C'est-à-dire que les mineurs isolés étrangers laissés circuler dans toute l'Europe. Des mineurs isolés étrangers qui ruinent le pays, qui font que les élections en Allemagne vont peut-être favoriser massivement un vote vers l'extrême droite, mais c'est une aberration complète. C'est-à-dire que, alors surtout, quand on dit que on peut pas ne pas accueillir toute cette misère du monde, on fait preuve, c'est ça qui est le paradoxe, on fait preuve d'un esprit de partisans de préférence nationale, c'est-à-dire que on se soucie du sort de mineurs isolés qui viennent en France et en disant ils sont trop malheureux chez eux, alors qu'en fait beaucoup de ces mineurs étrangers sont pas les plus malheureux chez eux, loin de là. Souvent, malheureusement, ce sont souvent les plus délinquants qui viennent en Europe parce que ils peuvent pas rester chez eux parce que la police marocaine et la police algérienne ne les laisse pas faire n'importe quoi. Donc, pour développer leur commerce illicite, il faut qu'ils trouvent leur grand marché. Et le grand marché, il n'est pas chez eux, parce que si...
chez nous, en Europe, ça va bien.
Non, mais pour la délinquance, ça va. Nous, on importe des chômeurs et des délinquants. Et ça, au point de vue défense nationale, c'est une hérésie.
Et les Américains font pareil ?
Voilà. Et donc, oui, enfin, ils essaient d'arrêter. Mais donc... les Européens semblent découvrir cette semaine que les Américains font passer leurs intérêts économiques cyniquement avant tout. Bon,
il
serait temps que les Européens se préoccupent de leurs intérêts essentiels. Parce que faire des guerres morales, c'est bien, mais faire des guerres qu'on gagne, faire des guerres morales avec toutes les chances de les perdre, c'est dommage. Et ce qu'il faut faire, c'est des guerres qu'on a toutes les chances de gagner. Et alors là, il y a... Au moment où les Européens, avec l'OTAN ou sans l'OTAN, ont fait beaucoup d'expéditions extérieures pour ramener l'ordre, soi-disant, etc., ils ont oublié trois conditions fondamentales avant d'engager une guerre, et qui ne devraient jamais quitter le cerveau de nos responsables politiques. Quand on fait une guerre dans un pays, il faut, avant d'engager cette guerre, il faut être sûr qu'on a quelqu'un qui peut remplacer celui qu'on va renverser. Parce que on a l'exemple de tous les pays où on est intervenu. On a renversé le dictateur, mais on n'avait personne pour prendre la place. Donc on connaît le résultat. La deuxième condition aussi importante, c'est d'être sûr que la vie des populations sera meilleure après notre intervention qu'avant. Or, dans tous les pays où on est intervenu, on a laissé un chaos économique, culturel et social extraordinaire. Et enfin, on doit être sûr que l'engagement qu'on fait est vraiment essentiel pour nous qui le faisons. Or, et que ces trois conditions soient réunies en même temps. Or, on ne cesse de faire des guerres dans l'espoir de les gagner, alors que Lao Tzu, c'est le grand général chinois disait, il ne faut engager des guerres que quand on les a gagnées avant de les commencer. Voilà à peu près. Et donc toutes les guerres pour la cohésion nationale, etc., sont fondamentales. Je donne un exemple. Lutter contre les tags peut paraître dérisoire à plein de gens. Mais quand vous voyez une ville comme Montpellier, où tout un tas de murs sont tagués, n'importe où, le tag, c'est des crimes, c'est le propédeutique de la délinquance. Parce que quand vous taguez le mur de quelqu'un, ça veut dire que vous respectez pas le plaisir qu'il a à avoir un mur propre. Et dire que c'est rien, il faut prendre exemple sur les... Quand on veut faire une bonne défense nationale, il faut prendre exemple sur les troupes, sur les armées qui ont fait la démonstration de leur efficacité. Les Américains sont admiratifs en France d'une chose, c'est la Légion étrangère. Qu'est-ce qui fait la force de la Légion étrangère ? C'est la cohésion culturelle au niveau du commandement et l'exemplarité des chefs. À la Légion étrangère, le colonel, ils sont toujours le premier au deuxième rep, quand il est présent, c'est lui qui saute le premier. Mais la Légion étrangère, c'est surtout une école de la rigueur et de la préparation. Ce qui peut paraître dérisoire, par exemple, que tous les linges doivent être rangés parfaitement, que tout doit être cadré, que tout doit être organisé, évidemment, dans notre société, ça paraît fou, ça. Mais en cas de guerre, hein, c'est comme en cas d'incendie, si l'extincteur il est dans, au fond d'un placard, la maison brûle avant qu'il soit utilisé. Donc, en matière de défense, oubliez que la défense, c'est tout fait sens en défense nationale. Il n'y a pas de petites économies. De même que la fusée Ariane, une des fusées Ariane a échoué parce qu'il y avait quelqu'un qui avait oublié un chiffon en remontant un moteur, ce qui a provoqué cet accident. En défense nationale, il y a plein de petits chiffons qui peuvent conduire à la catastrophe.
Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, Monsieur Bernard Chevalet, merci de, Pierre, de nous avoir... Pierre, pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est pas un problème.
Oh, des fois, on se trompe.
Bon, non, on n'a aucune importance, la Légion, on change de nom.
Bon. En tout cas, merci de cette parole d'ICO, Institut pour la coopération avec l'Europe orientale. Et eh ben, on souhaite une très bonne journée à nos auditeurs.